Bonjour et bienvenue sur les rendez-vous du CCEJB. Ariel Margot au micro et à la technique Clément. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission consacrée à une partie des associations de la mémoire. Samedi 27 janvier, nous avons commémoré les 79 ans de la libération des camps, en particulier le camp d'Auschwitz. Un rendez-vous qui est devenu incontournable et parfois repris par la classe politique. Mais depuis, il s'est passé le 7 octobre et cela nous a tragiquement rappelé la fragilité de notre condition et l'importance de travailler sur la mémoire collective pour qu'elle soit un enjeu essentiel dans l'éducation de nos enfants, mais aussi dans celle de toutes les générations, quelles que soient les confessions, l'origine, car le plus jamais ça que nous martelons depuis 80 ans a été plus qu'ébranlé. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui trois figures de notre communauté qui portent la mémoire sur leurs épaules. Gitla Schiffer, qui s'occupe du mémorial d'Anderlecht, et
qui est présidente de la continuité de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique.
Alors nous avons Willy Wolstein. Tu peux te présenter, Willy.
Oui, je préside la fondation du Mémorial national aux martyrs juifs de Belgique.
Et nous avons Marcel Zalk.
Marcel Zalk qui préside l'association pour la mémoire de la Shoah.
Voilà. Alors avant de parler de vos associations respectives, il me semblait quand même très important de revenir sur vos parcours et finalement que vous expliquiez un petit peu à nos auditeurs quelle est votre histoire de vie personnelle en quelques mots, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Mais finalement, comment est-ce que votre histoire personnelle vous a conduit aujourd'hui à vous occuper de cette mémoire? Et je propose qu'on laisse l'honneur aux dames. Donc là, je te laisse la parole.
Comme je suis une dame, je ne m'appelle pas Astérix, mais je suis quand même tombée dedans étant toute petite. Et quand je dis toute petite, je ne me souviens même pas de quand mes parents et principalement mon père m'a amené partout dans les cérémonies, puisque mes parents étaient des anciens résistants. Mon père était un ancien résistant juif. Et donc, Malines, tous ces lieux, le mémorial, quand il a été créé, tous ces grands lieux de recueillement, de mémoire, j'y étais avec mon père depuis 4 ans, 5 ans.
Et votre père, il était où?
Mon père était président de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique. Et donc, tous ces lieux de mémoire, j'y allais régulièrement. Petit à petit, avec des parents comme les miens et un père comme le mien, on n'échappe pas.
À la transmission.
À la transmission de la mémoire. Et c'est ainsi que je fais un grand raccourci. Donc, c'est ainsi qu'à un moment donné, mes parents, les membres de l'Union des anciens résistants juifs de Belgique, disparaissant les uns après les autres, mon père, qui était encore président à ce moment-là, a rassemblé quelques personnes, dont ma sœur. Il y avait David Lachman, il y avait Léon Finkelstein, il y avait encore Bernard Fenerberg qui vit toujours, qui est un des derniers, qui nous ont dit, écoutez, les enfants, les jeunes, il faut créer une association qui continue notre travail. Et c'est ainsi qu'on a créé la continuité en voulant garder leur nom à eux. Et au départ, qu'est-ce qu'on devait faire? C'était veiller à ce que le monument aux 245 résistants juifs de Belgique qui se trouve à Anderlecht soit entretenu, et qu'on ait notre présence partout et où il y a lieu d'être. Et c'est ainsi que, très vite, on a décidé de créer un petit journal qu'on a appelé Continues et qu'on continue. Et puis, une fois que moi, j'ai pris le relais, que je suis devenue présidente, j'ai commencé à interviewer beaucoup de résistants, à l'époque encore vivants. Et puis, je continue à le faire. Maintenant qu'il y en a de moins en moins, je travaille avec Johannes Blum, qui lui a lui-même interviewé beaucoup d'anciens résistants. Et donc, avec son accord, je reprends des interviews que nous retranscrivrons par écrit. Et que nous
ça, c'est le travail d'archives que vous faites.
Voilà, et ça, c'est un de... Voilà où on en est et comment, moi, je me retrouve comme ça. Donc ça, c'est pour l'association en elle-même. Et après, il y a beaucoup de choses à dire. Mais
après, c'est la continuité. Et donc, vous collaborez avec Willy régulièrement. Vous travaillez ensemble.
Oui, parce que je fais partie du CA. Et donc, je travaille beaucoup avec Willy.
Et donc,
ça,
Willy...
il le dira lui-même. Je travaille aussi beaucoup. J'ai été 10 ans présidente du comité Yom HaShoah. Mm-hmm. Et depuis l'année passée, c'est... Vanessa Zeigman qui a pris le flambeau, mais je continue à être très active.
D'accord. Et donc, Willy, votre parcours, c'est quoi ?
Alors, mon parcours, en fait, donc je suis moi aussi un fils, un enfant de résistant.
Oui.
Toute ma famille, mon père, ma mère, deux de mes tantes étaient résistants. Je porte le prénom d'un cousin. Qui était résistant et qui est mort en déportation. Je suis le premier enfant mâle né après la guerre. Et j'ai été éduqué dans le déni du judaïsme. Mais ils ont raté leur coup. Donc...
Vous êtes replongé dedans directement.
pas directement, c'est sur le tard, relativement sur le tard, à la cinquantaine passée. Je ne vais pas le développer, ça, ici. Ce serait trop long dans le contexte, en fait, de la seconde intifada. Mm-hmm. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, donc, je me suis impliqué, à ce moment-là, dans les Amis belges de Shalom Arshav, la paix maintenant, et de fil en aiguille au Centre communautaire laïque juif, dont j'ai été administrateur, et de fil en aiguille au comité directeur du CCEJB. Et via Agitla, j'ai atterri à la Fondation Mémorial National des Martyrs Juifs. Voilà.
Donc je suis. Et votre père pendant la guerre, c'était alors, son parcours, son histoire.
Mon père, pour autant que je connaisse, parce que comme beaucoup, lui était déporté, pas ma mère. Ma mère était courrier des partisans armés, donc du Front de l'Indépendance. Mon père était dans la branche jeune flamande, le responsable de la branche jeune flamande.
Donc des parents résistants.
Du Front de l'Indépendance. Et alors, tiens, ça, je tiens à le dire, ça lui a sauvé la peau. Parce qu'en fait, c'est mon grand-père qui a été déporté à sa place à Auschwitz, au moment où la convocation est arrivée. Et puis, mon père a été arrêté. Et donc, là, ils ont voulu le juger. Il a été au secret, ça, je le sais, mais pour autant qu'il le disait, pendant des mois. Et puis, le jugement n'est jamais intervenu. Parce qu'il a sauvé la peau une seconde fois. Voilà.
Donc des miracles.
Donc on se dit toujours que notre venue au monde est relativement précaire.
C'est-à-dire
que, par exemple, je me dis que la guerre durait 6 mois de plus, je ne suis pas là pour vous parler. Voilà.
Ah, bon, non plus.
Heureusement qu'elle s'est arrêtée. Oui. Bon, vous, Marcel Zalk, racontez-nous un peu comment vous êtes tombé dans ce travail de mémoire.
Ce travail de mémoire, bien évidemment, est allié à ce qui m'est arrivé hier. À mon passé d'enfant caché. C'est-à-dire que j'allais sur mes 5 ans en octobre 1942, lorsque j'ai été placé avec mon frère dans un couvent à Louvain. Et en 1943, mon père et ma mère se sont fait arrêter par le Gros Jacques à la rue. Et donc, nous sommes restés là, mon frère et moi. Et bien évidemment, je suis sorti du couvent lorsque ma mère est venue nous chercher. Mon père n'a pas résisté aux tortures qu'il a subies à Malines, puisqu'ils sont restés, curieusement, ils sont restés 1 an à Malines, alors que personne ne restait 1 an à Malines. Mm-hmm. Ma mère n'a jamais su ni le comment ni le pourquoi de ce gros avantage par rapport aux autres personnes qui rentraient là. Mais à 3 reprises, j'ai les documents d'ailleurs à la maison, à 3 reprises, ils ont été descendus du train de la déportation.
Okay.
La 3e fois, en juillet 1944. Donc on était pratiquement à la libération de Bruxelles. Donc mon père s'est fait tabasser, je dirais, et torturé en juillet 44, donc pratiquement
à la fin de la guerre.
Pratiquement à la fin. Il est sorti de Malines avec ma mère. Lui, il est sorti sur une civière et donc emporté immédiatement dans un hôpital, et de l'hôpital à la maison, et très rapidement retour à l'hôpital où il est décédé des suites des mauvais traitements donc qu'il a subis. Ça, c'est concernant mes parents. Donc, ma mère est venue nous reprendre au couvent dès sa libération et nous a placés, mon frère et moi, dans une... je pense que c'est un orphelinat, je pense, qui se trouvait à Lannes, où beaucoup d'enfants cachés se sont retrouvés dans l'immédiate après-guerre. En tout cas, on s'est retrouvés là, le temps que ma mère puisse prendre une nouvelle respiration, se soigner, parce qu'elle est sortie en très mauvais état de Malines. Où c'était pas, ça n'avait rien de comparable à ce qui se passait, évidemment,
dans les camps
de concentration. Mais quand même, elle est sortie malade de là. Elle est d'ailleurs restée malade jusqu'à la fin. J'ai vécu avec une maman qui était malade du 1er janvier au 31 décembre, sans arrêt, et toutes les années durant. Et donc, voilà, je suis sorti écorché. Je suis sorti enfant écorché de ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé d'ailleurs à près de 3000 enfants. Chacun est sorti de sa cache avec une autre histoire. En tout cas, voilà, la mienne m'était absolument insupportable. Et j'en ai souffert à l'intérieur du couvent où j'étais tombé malade jusqu'à devenir rachitique parce que je pleurais du matin au soir. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et à mes questions, je n'avais pas de réponse. Mais j'ai eu cette chance incroyable de tomber sur une jeune nonne qui, au péril de sa vie, a souhaité sauver la mienne. Et donc, mon frère était dans une autre catégorie, dans le même couvent. Mon frère, d'ailleurs, que je n'ai jamais revu à la rentrée du couvent, en octobre 42, je n'ai plus revu mon frère jusqu'à la libération en 44. Nous avons 18 mois d'écart, mais lui, il était déjà ce qu'on appelle les plus grands.
Okay.
Et donc, je n'ai jamais plus revu mon frère pour une raison de sécurité, puisque les fratries étaient immédiatement séparées dans les endroits où nous étions cachés.
Vous aviez quel âge en 42?
Pardon?
Vous aviez quel âge?
J'allais sur mes 5 ans.
C'est ça.
J'allais sur mes 5 ans, mon frère allait sur ses 7 ans. Et donc, voilà, j'étais un gosse complètement perturbé, dans le questionnement sans arrêt, et puis surtout dans un enfermement intérieur, puisque malgré tout, je peux dire que j'étais privilégié par rapport au sort qui était réservé à 1 million d'autres ennemis d'enfants qui malheureusement ont péri dans les centres d'extermination. Et donc, je me suis retrouvé là-bas. Je suis sorti de là extrêmement perturbé. J'étais perturbé d'ailleurs jusqu'à mon adolescence où ma scolarité était très, très compliquée parce que sans arrêt, je tombais malade aussi pour un oui, pour un non. Je suis sorti en mauvaise santé et je suis resté en mauvaise santé 3-4 années après.
Et cette transmission, ça a tout de suite été une raison pour vous d'être ou alors pendant toute une période, vous n'en avez pas parlé, pas partagé, et puis c'est arrivé après?
Pendant toute une période, je peux dire franchement, jusqu'à mon adolescence, j'étais en souffrance. J'étais un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Jusqu'à mon adolescence, j'étais en souffrance. Ce n'est vraiment qu'à partir de mon adolescence que j'ai pu un peu m'extérioriser pour une raison qui était toute particulière. C'est que je suis sorti de là avec la peur, la peur de celui que j'étais, c'est-à-dire cette peur qui m'a été enseignée par cette formidable personne que j'ai fait d'ailleurs nommer juste parmi les nations. Et donc, elle m'a protégé tout en m'inculquant les peurs auxquelles je devais...
affronter.
Pardon ?
Les peurs à affronter, il fallait se protéger
donc,
contre
tout
eux.
En m'informant des peurs que je devais affronter, la peur du petit gamin que j'étais, la peur des cheveux noirs que j'avais, la peur du type que j'avais sur moi, la peur de mon accent, enfin bon, bref, la peur de tout. Et je suis sorti avec ces peurs du couvent, et ces peurs se sont poursuivies pendant les premiers temps, je dirais certainement pendant environ 5 ans, à l'école. À l'école, je n'osais pas décliner mon nom. Mon nom n'est pas Marcel. Mon nom, c'est Meyer. Et ce, il n'y a que ma mère qui pouvait m'appeler par mon prénom. Et d'ailleurs, ça a été fait jusqu'à la fin. Il n'y a personne d'autre qui m'appelait autrement que Marcel, parce que dans le couvent, on m'avait changé mon identité. Je m'appelais Marcel Van Zalk, qui paraissait plus flamand que Meyerzalk. Et donc, ce Marcel Van Zalk, étant enfant et avec la peur que j'avais, c'est le nom que je portais malgré que ma maman m'a fait récupérer mon identité originale, qui est donc Meyerzalk, et donc personne ne m'a jamais appelé Meyer. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Vous venez de prononcer aussi Marcel. Et donc,
aujourd'hui...
Je ne suis plus tenu par la même peur, je vous rassure. Et les années sont passées.
Au contraire, aujourd'hui, vous portez un flambeau, vous occupez donc, l'association...
Pour revenir à mon action d'aujourd'hui, cette action, je préside pratiquement depuis 17 ans. Je ne sais pas pourquoi personne ne veut reprendre ma place, mais en tout cas, voilà. Je préside depuis 17 ans l'Association pour la mémoire de la Shoah. Et si je préside cette association et l'engagement que j'ai pris pour envers cette association, dont je suis à l'initiative avec deux, trois amis, c'est bien parce que c'est mon passé. Je retrouve en fait ces souvenirs de mon passé et l'engagement d'aujourd'hui est très certainement lié à ce que fut mon enfance d'alors.
Bien sûr. Merci. Pour revenir aux associations et à votre travail quotidien, Willy et Gitla, le mémorial d'Anderlecht, ce sont des visites pédagogiques, des visites privées, des gens qui viennent voir, qui viennent retrouver les noms, qui viennent chercher une explication.
En fait, le mémorial, enfin la fondation a extrêmement peu de moyens. Je pense que c'est une chose dont on doit être... c'est uniquement des bénévoles, quoi. C'est une chose dont on doit être conscient. Je pense d'ailleurs pour la suite et pour la perpétution de l'action. Le mémorial a un statut tout à fait particulier, parce qu'il a été édifié par la communauté, avec les moyens de la communauté, donc... dans les années 1965, à une époque évidemment où les rapports étaient complètement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui, grâce à la fois à la mobilisation des associations communautaires, des rapports qu'elles avaient avec le personnel politique de l'époque. Donc il était érigé par un comité national qui était sous la présidence d'honneur de la reine Élisabeth, la mère du roi Albert Ier. Et le mémorial a été édifié sur une parcelle
qui a été donnée
par la commune d'Anderlecht à l'époque, par le bourgmestre de l'époque, Joseph Brakops, qui était lui-même... un prisonnier politique rescapé des camps, qui avait d'ailleurs été passé entre autres à Auschwitz. Et donc, en fait, ils ont édifié ce bâtiment sur une parcelle qui appartient à la commune. Et donc, en réalité, ce bâtiment est une propriété communale. Et donc, ça pose la question de la pérennité de l'affectation du monument. Il est classé, donc là, ça, on ne peut pas y toucher. Mais son affectation, quand sera-t-elle dans 40 ans ? Nous n'en savons strictement rien. Donc nous avons conclu une convention avec la commune, qui est une convention à 99 ans renouvelable. Ça donne une relative protection, pour moi, relative protection. Ça, c'est un aspect des choses. Le deuxième aspect, c'est que, en fait, il faut bien. Ne tournons pas autour du pot. Ceux qui tiennent la fondation, c'est Gitla et moi.
Tout à fait.
Et donc, nous faisons notre âge. Et donc, non.
Mais toi, vous ne faites pas votre âge.
C'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une réflexion stratégique au sein de la communauté pour assurer la pérennité de ces institutions.
Des projets aussi, puisqu'on a un projet du mur des justes qui est en cours.
Ça, oui.
Qui devrait en tout cas voir le jour en 2025. Mais bon, c'est un travail de longue haleine.
Le projet Mur des Justes, il va être érigé. Il y a tout un programme de rénovation qui est assez remarquable de l'îlot où se trouve implanté le mémorial. Et bon, comme n'importe quel programme de travaux publics, il est en retard, oui. Donc c'est normal. Et donc, à l'issue de cette rénovation, le mur sera érigé. Mais pour moi, le vrai enjeu, il n'est pas vraiment là. Le vrai enjeu, il est dans ce que j'ai dit.
C'est la continuité.
C'est la continuité. Et également, je ne sais pas si vous êtes au courant, je trouve que ça fait vraiment partie du paquet. Tout à fait récemment, le ministère français de l'éducation nationale, les autorités françaises ont transformé la commémoration du 27 janvier en commémoration des génocides et la prévention des crimes contre l'humanité.
Tout à fait.
Et donc ça c'est un vrai problème.
Donc le 27 janvier, la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité.
C'est ça.
Et voilà.
Donc ça veut dire qu'en fait, on vide de contenu la commémoration de la Shoah.
Je dois dire que le Musée juif de Belgique a fait aussi une commémoration un petit peu dans ce sens. C'est aussi effrayant, puisque eux, ils ont fait un multimémo visant à promouvoir un nouveau langage, la commémoration de la mémoire des génocides de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a vraiment un changement, une transformation de cette notion de mémoire des victimes de l'Holocauste qui était ce que les Nations Unies avaient décidé à déclarer en 2005 comme journée internationale pour la mémoire.
Oui.
Et aujourd'hui, on sent bien
On noie le poisson.
Voilà, exactement.
C'est ce qui est arrivé avec la caserne d'Ossin, d'ailleurs. L'ancienne caserne d'Ossin, on a reconstruit un musée qui est absolument formidable sur le plan didactique et autres. Mais je me souviens, le jour de l'inauguration, ma surprise quand j'ai lu l'appellation. Mm-hmm. Et surtout, si tu t'en souviens, Gitla, c'était...
Moi.
C'était avec ce qui est arrivé à la place Tiananmen, où on a vu les chars et le Chinois qui s'est mis devant les chars. Oui. Ça, c'était l'image qu'on a donnée. Oui. C'est la seule image qu'on a trouvé à donner quand on a inauguré ce musée de la caserne d'Ossin. Voilà, on a été, je pense, tout le monde ici a été surpris de ça.
Il y a encore autre chose dans le même développement. L'esprit. C'est la maison de la résistance, qui maintenant se fait appeler le musée des résistances.
Ah oui.
C'est aussi ambigu tout ça. Et on n'est plus du tout dans l'idée de départ de cette maison de la résistance.
Tout à fait.
Oui, et c'est un peu... On est garant de ce travail de mémoire et de rappeler aussi constamment pourquoi est-ce qu'on doit maintenir cette mémoire, cette transmission, quel est le fondement même de notre transmission. Et ça se perd avec les générations. Et en fait, la lisibilité devient compliquée pour les jeunes générations de savoir finalement qu'est-ce qui est plus important sur l'échelle de la souffrance ou de la résistance. Voilà, ça devient très compliqué.
Et d'autant plus que les derniers témoins s'en vont petit à petit. Et donc, derrière tous ces témoins, je dirais, directs, c'est-à-dire les rescapés de l'univers concentrationnaire et ceux qui les ont suivis, c'est-à-dire les enfants cachés, qui aussi, comme moi, sont devenus des ancêtres. Mm-hmm. Et donc, une fois que cette génération va disparaître, ce seront les historiens qui prendront la relève.
C'est la raison que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est ça qui est intéressant dans un débat. Et qui me revient à l'esprit, en fait, pourquoi les anciens résistants, l'Union des anciens résistants juifs, ont créé leur association, c'est parce que il y a eu Forisson qui a développé cette idée
négationniste.
Et donc, à ce moment-là, il faut quand même savoir que la plupart des anciens les rescapés de déportés, enfants cachés, résistants, avaient le souci de se refaire une santé physique, professionnelle et autre. Et quand ils ont entendu tout ça, ils ont décidé de créer, en tout cas pour les résistants, ils ont créé cette association en disant « c'est pas possible, nous sommes vivants, nous sommes des témoins directs ». Les déportés ont dit « mais nous sommes vivants, nous sommes les témoins directs, enfin, nos parents, et nous devons par tous les moyens transmettre ce que nous avons vécu, que ce soit par des films, que ce soit par des témoignages, que ce soit par des écrits, mais nous ne pouvons pas laisser passer cela parce que après,
il n'y aura plus
de témoignages directs. Ouais. Donc nous devons agir, et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, l'association mère la nôtre a été créée, et c'est une des raisons pour lesquelles les déportés aussi ont créé leur association.
Et évidemment, il faut veiller à ce que ce patrimoine audiovisuel ne soit pas non plus critiqué du fait que ce soit des fake news, comme on voit la transformation finalement de la mémoire. Ça va être compliqué de maintenir vraiment la véracité et l'authenticité du matériel. Mais bon, c'est notre devoir, on doit le faire et notre génération doit le continuer. On espère que nos enfants continuera à le faire.
Je trouve qu'en fait, dans les enjeux, il y a à la fois un enjeu de contenu.
Tout à fait.
Voilà, ici, on vient de l'expliquer. Il faut pouvoir... c'est quand même incroyable ce qui se passe. Je veux dire, cette décision du gouvernement français est incroyable. C'est le génocide des Juifs et des Tziganes est le seul génocide qui s'est produit en Europe. Et on est en train de le faire disparaître, du récit historique.
Oui.
Et ça, c'est un vrai problème. Alors, je pense qu'il y a rien de ça n'est innocent non plus. C'est-à-dire que ça fait partie de toute une série d'enjeux politiques contemporains.
Et géopolitiques.
Mais même aussi liés à notre politique interne.
Tout à fait.
Mettons les pieds dans le plat. Il y a un discours qui est diffusé et qui dit aujourd'hui que les musulmans d'aujourd'hui ont remplacé les juifs d'hier. Ce discours est là. Donc ça fait partie des enjeux. Ça, c'est un aspect des choses en termes de contenu, la rigueur historique. Et le deuxième aspect, il est l'aspect institutionnel. C'est-à-dire que la perpétution de la mémoire a besoin de structures, d'institutions, de moyens, etc. Et donc là aussi, je trouve qu'il faut avoir une vision qui consiste à consolider les institutions de la mémoire.
Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point d'actualité. Bon, ce qui s'est passé le 7 octobre nous a tous marqués. J'aimerais quand même que vous me disiez si vous, dans votre travail de mémoire, bon, évidemment, d'un point de vue personnel, je suis sûre que ça vous a impacté. Mais est-ce qu'au niveau de votre travail dans vos associations, vous avez senti une différence? Est-ce que on dit que dans les écoles, les professeurs, les éducateurs sont plus frileux à faire venir des personnes pour témoigner, qu'il y a de la résistance pour éviter qu'il y ait un conflit entre les jeunes dans les écoles. Est-ce que vous, personnellement, vous avez senti quelque chose?
Chez nous, dans l'association pour la mémoire de la Shoah, je ne peux pas dire qu'on a ressenti quelque chose. Et nous continuons donc, dans la mesure du possible, à témoigner. Nous posons surtout les pavés de mémoire à travers, non seulement à travers Bruxelles, mais aussi à travers toute la Belgique. Et donc, jusqu'à maintenant, ça ne nous a pas impacté. Et Je peux affirmer ça parce que lors des dernières poses de pavés de mémoire qu'on a eues donc le 26, le vendredi 26, nous avons amené sur les différents endroits où les pavés ont été posés, 5 écoles ont participé à ces poses, dont, et j'insiste là-dessus, nous tentons toujours d'avoir une école de Molenbeek. Nous avons là-bas un relais extraordinaire. Ce relais, c'est un bibliothécaire, j'aimerais rappeler son nom, c'est Guy Marchand, qui fait un travail extraordinaire dans une commune qui est quand même réputée difficile.
Tout à fait.
Et donc, nous insistons aussi que...
Le relais se fait.
Pour chaque pose de pavé, nous puissions avoir une école de Molenbeek. Et cette année, je peux vous dire que mon émotion était très profonde quand j'ai vu les petits-enfants de la communauté arabo-musulmane, qui venaient principalement de Molenbeek, nettoyer les pavés de mémoire à la rue des Tanneurs. Je vous assure que c'était un choc émotionnel pour moi extraordinaire, parce que je me dis, dans le fond, ce qu'on fait là,
ça a du sens.
Ça a du sens. Et c'est porté pas seulement vers notre communauté, nous on sait parfaitement ce qui nous est arrivé, mais au travers d'une autre communauté qui nous est très souvent hostile.
Tout à fait.
Et dont, ces gosses, j'imagine que quand ils vont rentrer à la maison, ils vont expliquer à papa-maman ce qu'ils viennent de faire dans l'après-midi. Mm-hmm. Et donc, c'est d'une importance
capitale.
Vraiment, c'est d'une importance vitale. Et nous faisons la même chose lorsque, depuis 3 ans, nous avons décidé, avec le délégué de la maison d'Izieux à Bruxelles, M. Bertrand Werth, nous avons décidé donc d'emmener chaque année, au mois d'avril, une délégation de classe de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, on a des classes qui viennent de Liège, d'autres régions de Wallonie et aussi de Bruxelles. Mais je dis aussi de Molenbeek. Mm-hmm. Et l'an passé, nous avons pris une classe de Molenbeek d'un quartier qui est particulièrement réputé être un quartier difficile. Mm-hmm. Et ce fut un vrai plaisir d'aller travailler là-bas. Le départ était un peu froid, surtout que les parents assistent à la présentation. Dans un premier temps, lorsqu'on a développé devant eux le pourquoi de ce voyage à Izieux, où il y avait quand même 13 enfants belges qui s'y trouvaient et qui ont été déportés sur l'ordre de Klaus Barbie. On a expliqué tout ça, évidemment, ça a provoqué un étonnement dans un premier sens et on a eu un refus. C'est-à-dire pas un refus global, mais nous essayons toujours d'avoir au minimum 20 élèves. Et là, il n'y avait que, je crois, 6 ou 8 élèves dont les parents avaient décidé qu'ils pouvaient y aller. Et petit à petit, au fil des réunions qu'on a eues, finalement, on s'est retrouvés avec les 20 élèves.
Magnifique.
Tous les parents étaient d'accord.
Et
ça, c'est des choses extraordinaires, en tout cas.
Et moi, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, c'est un travail pédagogique,
il faut
être à l'écoute des gens.
Voilà. Et cette année-ci, au mois d'avril, nous partons à nouveau avec 5 classes cette fois-ci de la région de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont à nouveau une classe qui viendra donc de Molenbeek. Et nous allons dans ces différentes classes témoigner, expliquer ce qui est arrivé à ces enfants belges qui se trouvaient là-bas à Izieux. Et nous restons 5 jours sur place. Nous avons eu le bonheur d'être accompagnés par Madame la ministre Caroline Désir, qui a souhaité, ministre de l'Éducation, qui a souhaité donc nous accompagner en 2019. L'an passé, c'est Monsieur le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Géolet, qui a souhaité et qui finance aussi par des subsides. Et donc
vous avez le soutien des autorités.
C'est quelque chose qui, aujourd'hui, ce voyage à Izieux est devenu vraiment d'importance. Et les autorités belges, en tout cas, à qui on s'adresse pour pouvoir faire ce voyage à Izieux, elles nous sont d'une aide incroyable, en tout cas.
Et Guitla au mémorial, on sent quelque chose
ou pas... Oui, j'allais justement y venir. C'est-à-dire que, en tant que continuité, chaque année, il y a, comme vous le savez tous, la cérémonie Yom HaShoah qui se fasse au mémorial, excepté cette année, puisqu'il y aura des travaux. Mais chaque année, une semaine ou deux avant la cérémonie, nous organisons, nous, une rencontre avec des jeunes des écoles francophones, néerlandophones. Et cette rencontre, en fait, doit se faire au mémorial. Et c'est l'aboutissement de tout un travail de plusieurs mois. Et c'est pour ça que c'est la mise sur pied de ce genre de rencontre est très rendez-moi. Puisque il faut d'abord avoir des écoles, il faut rencontrer les enseignants, il faut aller avec des témoins. Et l'idée, c'est que dans chaque classe qui participe à cet événement, les élèves ça fait partie d'un cours d'histoire, de morale, c'est quand on rencontre les directions. Et alors les enfants réalisent soit un texte, soit un dessin, soit un chant, quelque chose qui est l'aboutissement de tout ce travail en classe. Et lorsque nous réunissons tous ces jeunes, donc nous avons une matinée francophone, une après-midi néerlandophone, ils présentent leur réalisation. comme il y en avait énormément, on prend quelques réalisations par classe. Et alors, on a décidé de faire une brochure avec la totalité des réalisations et cette brochure de l'offrir le jour de la cérémonie à toutes les personnes qui sont présentes à la cérémonie. L'année passée, on n'a pas pu le faire. Cette année, ben, ça tombe à l'eau puisque le mémorial, on ne pourra pas l'utiliser, je pense. Les travaux auront commencé. Et donc, l'année prochaine, on reprend ce travail au mémorial. Et ça, c'est avec des jeunes des écoles, comme je l'ai dit, francophones, néerlandophones du pays. Deuxième rencontre que nous faisons, nous, continuité. Et cette première rencontre, Yom HaShoah, c'est fait avec les déportés, les résistants et nous, et les enfants cachés. Donc, ça se fait depuis la nuit des temps.
Et cette année, vous avez senti un peu plus de résistance avec les écoles ou pas tellement
faire, puisque...
Vous ne pouvez même pas le faire, donc en fait, vous n'avez
pas le temps. Mais non, parce que c'est pas qu'on peut pas, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas une question de contenu.
Le mémorial est enfermé. On ne peut pas. Il faut que ça se fasse au mémorial parce que là, il y a encore une visite guidée. Alors, une autre rencontre que nous faisons, mais pas au mémorial, c'est une rencontre la veille de la cérémonie à Malines. Mm-hmm. Là, on a tous les jeunes des associations juives
et des mouvements de jeunesse
qui viennent.
Et cette année, ça n'a pas eu lieu.
Non. Malheureusement, à cause des événements. Ouais. Des parents nous ont dit que ce n'était pas possible. Parce que les enfants étaient traumatisés avec le 7 octobre et que donc leur donner un nouveau traumatisme d'un témoin, donc c'était trop pour les enfants et les parents.
Je pense que c'est aussi des questions sécuritaires. Oui, on va devoir tout doucement arrêter.
Il y a encore beaucoup à raconter, mais voilà, c'est comme ça.
On fera une autre émission, je vous promets.
Merci de nous avoir invités,
Willy,
en tout cas.
Le mot de la fin, on a beaucoup parlé de continuité, de transmission. C'est quoi le message aujourd'hui que vous avez envie de transmettre aux générations qui suivent? Comment maintenir cette mémoire?
C'est-à-dire, en fait, je trouve qu'il y a une interpellation à faire en termes de responsabilité. Ce sera... on va s'effacer, c'est très clair. Et donc, il faut qu'il y ait une relève. Moi, je pense que s'il y a un message à transmettre, c'est celui-là.
Notre responsabilité.
Une responsabilité des générations montantes.
Marcel, vous voulez rajouter quelque chose?
Moi, je voulais ajouter que, pour un peu rebondir sur ce que Gitla a dit, sur ce que Willy a dit ici, c'est un travail dans lequel l'association s'est investie, en tout cas, c'est insister sur l'éducation. Et insister aujourd'hui très lourdement et très fortement, surtout lorsque nous avons assisté à quelle allure les mouvements antisémites ont immédiatement pris la rue et le dessus de toutes les informations. Mmh. Cet investissement, je ne vous cache pas, ça m'a ébranlé. Parce que je me suis dit que rien n'a été compris. Mmh. Le plus jamais ça, à mon point de vue, en tout cas, a été effacé le 7 octobre. Mmh. Parce que le 7 octobre, n'ayons pas peur des mots, ce fut un pogrom. Et moi, comme enfant caché, particulièrement, des anciennes peurs, des peurs sur lesquelles j'avais travaillé tant et tant d'années pour que ces peurs s'effacent de ma mémoire, toutes ces peurs me sont revenues. Et je me suis dit, il faut continuer ce travail au niveau de l'éducation. Et je vais clôturer en vous disant à ce titre qu'en 2021, j'ai interpellé Madame la ministre Caroline Désir à Usieux en lui faisant remarquer qu'il n'y avait pas d'obligation d'enseignement de la Shoah en région francophone. Mm-hmm. Elle m'a répondu sur place, « Monsieur Zalk, je vous assure que dès la rentrée de septembre, je ferai le nécessaire et je ferai voter la loi. » Et c'est ce qu'elle a fait.
Gitla, dernier mot.
Oser agir. Oser prendre vos responsabilités. Toi, Marcel, tu as parlé des autorités et autres. Moi, je parle du citoyen juif et non-juif qui nous entend. Nous sommes trois invités aujourd'hui, il y en aura d'autres, des représentants de la mémoire. Alors quand je dis agir, eh bien rejoignez-nous. Vous êtes plus jeunes, vous êtes convaincus, vous avez pris vos responsabilités, vous avez le choix de vos associations, vous pouvez même en aider plusieurs, vous pouvez en choisir une. Il y en aura suffisamment, il y en aura encore. Donc, vous voulez nous rejoindre, vous appelez Radio Judaïca et vous demandez vous demandez qui est qui et comment
et
nous
qui
rejoindre.
Qui a besoin d'aide.
Donc, on a tous besoin d'aide. Ils ont le choix.
Tout à
fait. Et ils peuvent en aider plusieurs et ils peuvent en choisir une.
Donc voilà, aujourd'hui, si on peut faire un appel et au nom du CCOJB, c'est aidez-nous à maintenir ces associations de la mémoire et à faire en sorte que la continuité perdure. Merci beaucoup. Merci d'être venu.
Merci de votre témoignage.
Merci pour l'accueil.
Merci beaucoup.